Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, et cette fois version trio, puisqu'on a un invité.
Moi j'aurais presque dit
un invité.
Ou j'aurais dit un invito, comme ça aurait rimé jusqu'au bout.
On n'est pas tout seul dans nos studios, on a réussi à avoir Agathe Allais. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue.
Nous vous recevons pour la sortie de votre tout premier ouvrage de bande dessinée.
C'est exact.
Et c'est pas commun parce que non seulement c'est votre premier ouvrage de bande dessinée, mais c'est un ouvrage paru dans l'excellente petite collection poche BDQ aux éditions des Requins Marteaux. Vous êtes rennaise.
Non, c'est changé, c'est Montenlair maintenant.
C'est Montenlair maintenant.
C'est pour ça que quand j'ai travaillé sur l'interview, j'ai vu au début il y avait Monsieur Ciseau et d'autres, et puis là maintenant ça a changé de nom.
C'est toujours.
Il y a toujours Ciseau.
Ciseaux, Felder, Charlotte, Peggy, enfin voilà, il y a toute une troupe, une nouvelle troupe, une ancienne troupe.
Et ça va être indépendant des Requins Marteaux désormais alors ?
C'est complètement indépendant des Requins Marteaux.
Alors vous nous direz pourquoi tout à l'heure, peut-être si vous le savez.
Oui, mais... c'est ça, je n'ai pas toutes les infos sur cette...
Évolution dans l'édition, on va dire. En tout cas, on est ravis de vous recevoir parce que avec Sacré Graal,
Sacré Graal.
Oui. Mais oui, mais vous savez que quand je l'ai tapé 50 fois Sacré Graal.
Oui, mais je pense qu'il y a aussi un clin d'œil, quoi.
Oui, bien sûr.
Parce que BDQ, mais aussi humour.
Voilà, parce que c'est ça un peu la démarche de cette excellente collection initiée au début par Aude Picot, je crois.
Je crois que c'était la première, effectivement. Ouais. Et puis, il y a eu plein de noms. Bouzard,
Pochep, Ninantico.
Bastien Vivès.
J'ai une question là-dessus.
Qu'on a fait trois.
Ouais, quand même.
Après, il s'étonne.
Ouais. Et puis, c'est aussi de la musique. Alors, les Toy Dolls, il paraît que vous voulez dire quelque chose.
Ouais, tiens, je vais le dédicacer à ma chérie parce qu'elle aime bien les Toy Dolls. Alors, c'est vrai que c'est pas tout jeune. Tout jeune, un trio punk rock infernal avec le chanteur en kilt. Et le morceau de bravoure que je préfère toujours, c'est quand le chanteur en kilt monte sur les épaules de l'autre guitariste et qu'il ne voit plus rien puisqu'il est sous le kilt et c'est très drôle. Voilà. Les Toy Dolls, et ça, c'est Yul Brynner Was a Skinhead.
There's a fella from a film reminds me you don't get good view. But he's not a proper skinhead 'cause he hasn't got a tattoo. He's not as wise as he seems 'cause he's just an actor. He's a dunce, I've never seen him on the grid.
Thank you.
la subtilité d'une Panzer Division.
Voilà, moi quand j'entends ça, j'ai envie d'envahir la Pologne.
Oi, oi, hein, quand même. Oi, oi.
Alors, vous râlez quand je mets de la zig de poisson, de soupe de
non,
poisson.
Non,
chat.
C'était très bien. J'aime bien, moi, ce côté cope de Boulogne qui chante.
Voilà, et c'est ce que ma chérie préfère chanter lorsqu'elle a bu un coup. Et c'est très bien, c'est aussi pour elle, puisque c'était son anniversaire cette semaine.
Alors,
voilà.
Pour cette 478e émission, on a une invitée dans nos studios.
Voilà, Agathe Allais. Bonjour, rebonjour. Mais ça, on dit ça pour les sagouins qui prendraient l'émission pendant
ça
mon excellent morceau. Ça se fait pas, mais vous savez comment c'est. Agathe, vous êtes donc la toute nouvelle autrice de l'excellente série collection BDQ, parue de manière jusqu'à présent chez les Requins Marteaux, et plus maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, maintenant, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle...
C'est les éditions du Mont en l'air.
Voilà, les éditions du Mont en l'air, avec, à la base, toujours la même bande qu'il y avait à l'origine.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est Ciseaux et Felder qui sont toujours... Enfin, sont partis avec cette collection donc au Mont en l'air. Guillaume Dieu-Mora, qui s'occupe de la maison d'édition, et de la librairie, qui est une librairie parisienne.
Ok. Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait une librairie à Paris. C'est la librairie du Mont en l'air, c'est ça ?
Très, très bonne librairie.
Ah, je note.
Je note. J'en étais sûr.
Elle est où ? Elle est où ?
Idée pour
plus
tard.
C'est à Ménilmontant.
Ménilmontant.
On mettra le lien sur le blog, tiens, on mettra l'adresse.
Excellent, merci Agathe. Et donc, c'est votre tout premier ouvrage de BD. Alors, on a toujours coutume de vous demander comment vous êtes tombé dans la marmite de la BD, mais en fait, c'est tout nouveau pour vous, la bande dessinée, parce que avant et maintenant encore, d'ailleurs, vous avez un champ d'action beaucoup plus étendu, divers et varié.
Donc, vous êtes un couteau suisse dans les pratiques diverses.
Oui. Oui.
De la gravure, de l'illustration.
Ouais, j'ai commencé. Donc, j'ai fait des études d'art depuis même le lycée, parce que j'ai fait un bac art appliqué, et je voulais être illustratrice. Donc j'ai commencé par de l'illustration jeunesse, des albums jeunesse. Et puis, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, il y a des projets collectifs qui se sont montés aussi, avec l'atelier Barbe à Papier, le Marché Noir, voilà. Et puis, faire un livre aussi, c'est pas forcément...
C'est un élément dans un parcours, une étape supplémentaire.
Ouais. Et puis,
parce que en fait, si on remonte vraiment au départ, le premier enseignement biographique qu'on a sur vous, alors moi je trouve ça très mystérieux et passionnant, c'est l'école de recherche graphique
à
Bruxelles. Vous êtes passé par là. Et donc je me disais, moi je voyais des blouses blanches, des cheveux blancs dressés sur les têtes, en train de regarder. Regarde cette contre-plongée, Roger, comment elle est bien dessinée. Il a bien respecté l'angle. Enfin, vraiment des savants fous, quoi. Vous avez été savants fous.
Non, c'est... En fait, l'ERG, donc École de Recherche Graphique, c'est une petite cousine des instituts Saint-Luc en Belgique. Oui. Donc moi, je suis partie en Belgique faire mes études.
Énormément d'auteurs qui sont passés par Saint-Luc. Les plus anciens, Franquin est passé par Saint-Luc, si je ne dis pas de bêtises. Enfin,
après, il y a beaucoup d'écoles Saint-Luc en Belgique.
Ah ouais, ça, je ne savais pas.
Ouais, si, il y a Liège,
tu le notes ?
Bruxelles.
Je note.
Il y en a une à Tournai aussi, puis il y a Saint-Lucas en Flandre. Et dans les années 70, les écoles Saint-Luc ont créé l'ERG, qui amenait plus de recherche aussi dans la pratique. On peut sauter d'une...
Mais c'était quoi les supports option analysés, étudiés ? Parce que le graphique, c'est hyper large, en fait, quand on y réfléchit.
Ouais.
Ça peut aller de la publicité à je sais pas, de la gravure, quoi.
Ouais, oui. Plein de techniques.
L'idée de cette école-là, c'est qu'en fait, il y a trois pôles. Il y a un pôle narration, un pôle art et un pôle communication. Et après, on choisit des options qui sont liées au pôle ou pas. Donc, on peut faire du dessin aussi bien en communication qu'en narration, qu'en art. Et puis, voilà, avoir un travail différent sur le dessin, quoi, et une approche différente. Et moi, j'étais en narration, en illustration et en gravure.
Et vous aviez des, je sais pas, dans la narration par exemple, vous aviez des auteurs BD ou des scénaristes BD qui venaient vous faire des cours ?
On avait des profs qui étaient, généralement la plupart des profs sont des auteurs.
Auteurs eux-mêmes,
auteurs ou illustrateurs. Et alors moi, j'étais pas dans la section BD, j'étais dans la section illustration. Mais j'avais quand même un prof, Christophe Pout, qui fait de la BD chez les éditions belges.
Ah, c'est toujours le défi de retrouver l'édition.
Ouais. Bah après, une maison d'édition plutôt alternative, j'ai un gros trou, désolé.
C'est
Christophe.
Pas très grave. Donc, c'est au moins un auteur de BD. Et comment, mais c'est plus l'illustration jeunesse ou tout âge?
C'était plutôt jeunesse au départ qui m'attirait. Et puis, j'ai fait mon projet de fin d'études a été édité. Ça s'appelait Le Robinet lui aussi pleure. Et ça a été édité aux éditions du Point d'exclamation. Donc ça date, hein, c'était en 2008. Et voilà. Et après, je ne suis pas tout de suite retournée vers le livre. J'ai fait des petites auto-éditions, des petites choses. Et puis, mon parcours et mes rencontres ont fait que je suis partie un peu dans d'autres projets, même si le livre, j'étais toujours attachée, mais après, ça demande beaucoup de temps de faire un livre, ça ne paye pas forcément très très bien.
Faut que ça bouge avec vous, faut que ça bouge.
Et puis les envies, je sais pas, je suis plus mes envies aussi.
D'accord. Plutôt de s'enfermer dans une seule action.
Je sais pas, ça s'est fait comme ça. Et puis la BD, en fait, ça fait quand même... parce que j'ai un autre projet que j'ai commencé même avant cette BD, avant Sacré-Ral, qui est toujours en cours et qui sortira normalement en 2025. Il va sortir en 2025, c'est pas normalement.
Chez qui?
Chez les Requins Marteaux.
Note-le.
Je note.
Normalement, premier trimestre 2025, un projet que j'ai commencé donc fin 2018. Et voilà.
En solo?
Ouais. Une histoire qui me trottait en tête et je voyais plus une forme. Enfin, j'avais envie de faire de la BD, de raconter cette histoire-là sous cette forme-là. J'ai eu une résidence à Spéléographie, la Biennale des Écritures, là, qui commence la semaine prochaine.
Il paraît que vous êtes à la bourre.
Il paraît, mais moi je suis pas.
J'ai des sources.
Ouais, c'est à Rennes. Ça commence la semaine prochaine à l'Hôtel Pasteur.
Ah, yep.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourra voir alors là?
Il y a le programme qui est dans mon sac à main. Il y a pas mal d'artistes qui sont invités. En fait, ils font une. C'est un. Un échange avec les Cévennes, l'Ardèche cette année. Du coup, il y a des artistes qui viennent à Rennes et puis après, les Rennais partiront en Ardèche.
Et c'est obligatoire de partir en Ardèche.
Moi je pars en Ardèche. Je suis bien contente de partir en Ardèche au mois de mai.
Vous savez, pour une exposition. Ici, il fait froid. En Ardèche, il fait très froid.
Ou très chaud,
c'est selon. Mais c'est pas gagné.
Mais cette année, les invités, il y a Magali Arnal, Thomas Bernard, Double Bob, Lisa Abb, Laura Park, Varvara Pomidor et Thomas Rosier.
Tout ça dans le même bus, dis donc, sacrée ambiance.
Non, parce qu'il y a de l'art des choix, cœur fidèle, du coup, c'est quand même...
Ouais, il y a des Rennais quand même, Magali Arnal, elle est Rennaise.
Ouais, voilà, il n'y a pas que du... Du cœur fidèle.
Ouais.
Alors, les gens sur Rennes vous connaissent peut-être pour des tas d'autres choses. Hein. On va venir sur la BD, bien sûr. Mais par exemple, tout le travail autour des œuvres minuscules.
Oui, j'ai tenu pendant 10 ans la minuscule galerie. Parce que j'ai une passion pour les toutes petites choses, les petits trésors. En 2012, j'ai créé la minuscule galerie dans la devanture de Planetio, qui avait déjà son petit espace qui était présent, et j'ai proposé d'exposer des artistes qui avaient une démarche autour du petit, du miniature, du minutieux, du minuscule, voilà. Et j'ai tenu pendant 10 ans, j'ai arrêté à la rentrée, au mois de juillet, je sais plus, c'était à la rentrée, j'ai arrêté.
C'est récent,
parce que j'avais plus le temps de gérer.
C'était un beau projet, c'était marrant ça.
Ouais, c'était j'ai adoré vraiment.
Ça prend du temps,
rencontres.
Mais pas de place.
Ouais, mais ça prend de la place dans la tête, donc c'est quand même.
Eh bien, écoutez, on va s'écouter un petit Dix.
Ouais.
Et puis après, ben, on va rentrer plus dans le vif du sujet avec, non pas Sacré Graal, comme je m'obstine à le dire, mais Sacré Graal.
Ah, j'aurais bien parlé d'encore un truc que fait la dame, bah, que je trouve super intéressant. Non. Mais interlude musical, vous avez raison, Roger. Les Vivian Girls.
Yeah.
J'adore.
Should I call Johnny? What else to do? Alone on a Saturday night? Well, let me tell you one rule I always live by. Cassie, you're always right. You've got a ticket as it comes. You'll never get.
Je voulais dire deux choses. D'abord, je dédicace ce morceau à Yann. Je suis sûr qu'il écoutera cette émission. Je sais pas pourquoi. L'instinct, tu vois, je le sens. Donc, je lui dédicace ce morceau. Et deux, je voulais remercier Agathe qui finalement m'a expliqué que c'était quoi les Vivian Girls. Vous êtes un puits de science.
Moi, je le note.
Je suis sur le cul.
Pas noter. J'ai plus de place.
Oui, parce que le groupe donc s'appelle les Vivian Girls. Et vous me disiez que c'était les héroïnes d'un récit lu.
Bah, en fait, c'est Henri Darger qui est un artiste brut qui a été découvert. Enfin, du coup, son œuvre a été découverte à sa mort à Chicago. Je crois que c'est dans les années 70. Mais je dis peut-être une bêtise. Je ne suis pas sûre de la date. Et qui a fait un livre énorme avec des dessins. Même les dessins étaient faits sur des pans de tapisserie. Donc, c'est vraiment très, très, très grand. Des très, très grands formats. Et ces dessins illustraient une histoire qui s'appelle The Vivian Girls, je sais plus la suite, et qui raconte l'histoire de jeunes filles qui se mobilisent pour lutter contre la domination des adultes.
Ah, des adultes, pardon.
Ouais.
Et d'accord.
C'est fabuleux, son travail graphique.
Ouais, vous nous avez montré ça sur le téléphone pendant le morceau. Ouais, ouais, c'est... Bien bah, écoutez, merci. Vous avez enrichi ma journée.
Ah, mais moi, regardez, j'ai
dès le début.
J'ai la librairie du Mont-en-l'air à Ménilmontant.
Trop d'infos.
Alors, vous aviez envie d'avoir des infos, par contre. Vous aviez encore
oui.
une question.
Je crois que vous avez aussi mené un projet Citadelle.
Oui.
Que je trouve super chouette. Un magazine.
Ouais,
vous nous en dire deux mots parce que c'est vraiment cool.
J'ai participé pendant, ça a duré 10 ans aussi. Hein, c'est à Citadelle, aux ateliers d'illustration. Donc c'était un magazine qu'on faisait à la prison des femmes de Rennes,
ouais,
avec des rédactrices
incarcérées,
ouais. Et on faisait 3 numéros par an. Donc il y avait Audrey Guillet qui était la journaliste qui encadrait du coup les filles sur la partie rédaction écriture, Alain Faure qui s'occupait de toute la coordination et puis aussi qui dessinait beaucoup, donc qui était là aussi aux ateliers.
Il travaillait beaucoup à oui. Quai des Bulles où il montait en scène
bien
des
sûr.
Expos.
Ouais.
Ouais, on le connaissait un petit peu.
Ouais.
Et puis Delphine qui s'occupait de la maquette, enfin voilà. Et puis après tout le chant aussi.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ça?
On avait travaillé avec Alain et Delphine. On avait travaillé sur un magazine déjà qui s'appelait DTC, Dans ta cuisine.
Dans ta cuisine, Roger.
Ouais. et puis voilà, ils avaient c'est Alain et Delphine qui avaient cette envie là et puis on en avait parlé ensemble et moi j'étais bien partante pour faire les ateliers d'illustration qui n'étaient pas des ateliers de dessin, c'était vraiment l'idée de donner, d'illustrer les articles, parce qu'on ne pouvait pas rentrer d'appareil photo pour illustrer, les textes que les filles écrivaient. Et donc, moi, j'amenais plein de techniques pour leur faire une belle image.
C'est travailler dans un univers vraiment très particulier. Moi qui ai fait 2-3 petits trucs, les contrôles, c'est une ambiance hyper particulière,
le
monde carcéral.
Oui. Ah bah oui,
quand
oui,
on est
c'est
visiteur,
sûr.
C'est fou.
Ouais, c'est sûr, c'est
mais
sûr
vous
que
apportez, l'important, c'est ce que vous apportez aussi.
On amène l'extérieur,
détenus.
On amène ouais. Puis
vous
aussi,
aviez beaucoup de filles avec vous.
Ça dépendait des numéros, mais ouais, on était sur. Alors moi, le dessin n'attirait jamais vraiment. C'était plus attiré par l'écriture et la partie rédaction. Et après, je dis ça, il y en a qui venaient qu'en dessin aussi. Mais j'avais quand même moins de monde en atelier d'illustration. Ça fait peur. Les gens pensent qu'ils savent pas dessiner. Et après, moi, tout ce que je faisais, c'était vraiment les amener à faire une belle image. C'était vraiment pas un cours de dessin, quoi.
Et un dessin qui leur plaise, dont
elles soient fières. Qu'elles soient fières, quoi. C'est ça qui est, et ça marchait. C'est ça qui est chouette, c'est de voir.
Alors justement, est-ce que vous, par exemple, pour revenir la raison principale de votre venue dans notre émission pour Sacré Râle aux éditions BDQ?
Oui, je crois, oui.
Alors justement, quand on dit qu'on est amené à être fier, j'ai juste envie de vous embêter. Alors, est-ce que vous êtes fier de ça?
Mais je suis très, très fier d'avoir fait ma première BD chez BDQ. Ouais, je suis vraiment fier.
Alors, moi, je suis admiratif parce que non seulement c'est votre premier ouvrage de BD, comment vous avez été contacté? Comment ça s'est fait, la rencontre avec une collection pour laquelle qu'on a chroniqué bien souvent? On a interviewé des auteurs, d'ailleurs, de cette collection qui sont déjà jusqu'à présent...
C'est une collection où les livres sont sous emballage plastique.
Oui.
Quoi.
De toute façon, c'est normal.
Ça dit tout, quoi.
Et comment ? Mais c'est surtout beaucoup d'auteurs qui sont déjà reconnus, etc. Comment vous avez été contacté par
Oui, parce que je connais pas d'autres auteurs dont c'est la première BD la série. C'est toujours plus ou moins des confirmés qui des fois font ça un peu pour changer ou pour se lancer un challenge. C'est pas leur univers. Par exemple, ces deux-là, ils ont voulu se faire un petit plaisir, un petit kiff, quoi.
Faire un petit pas de côté.
Ouais, ouais. Donc vraiment rentrer, c'est... Comment ça s'est fait? C'est intriguant.
En fait, il y a Sébastien Lumineau qui a fait une BDQ qui s'appelle Les Escalopes, qui est superbe.
Rêver déjà le titre. Je dois avouer que le titre est vendeur.
Et Sébastien m'avait... Donc, il y a tout le temps 3 invités dans la BD pour faire les pages de garde et puis 2 dessins qui sont à la fin. Et Sébastien m'avait demandé de faire les pages de garde de sa BD.
Et les fausses pubs, etc.
Non, là c'était oui. Alors
c'est les trucs à la fin là.
Ouais, c'est les dessins qui sont à la fin. Les fausses pubs, elles sont faites par Ciseaux et Felder.
D'accord.
Et là, les pages de. Du coup, moi, j'avais fait les pages de garde. Et puis après, je suis allée à Angoulême. J'ai rencontré Ciseaux, Felder. Et puis voilà, ça s'est fait. ça s'est fait plus sur une rencontre et sur une idée de scénario que j'avais et qui a plu, alors que c'est Ciseau qui m'a dit bah vas-y on y va, et il avait jamais, enfin je lui avais raconté un scénario et mais il avait jamais vu mon dessin, hein. Je sais pas s'il serait venu vers moi s'il avait connu mon dessin. Ouais.
Oui, mais bon, il en était quand même content. Sinon, il aurait interrompu quand vous
avez
présenté
votre première planche. Bah oui, je pense, ouais, je pense.
Et alors,
donc ce scénar, il vous est venu, lui, il vous est venu comment? Alors, il faudrait peut-être rappeler un peu de quoi on parle dans Sacré Graal, en fait. Sacré Graal, ouais. J'ai envie de dire que c'est un conte initiatique.
Oui. Ouais, une aventure, conte initiatique.
On a trois.
Conte médiéval.
On a trois damoiselles, il faut dire, hein, parce qu'on est dans une période médiévale, qui sont envoyées.
Elles sont à la recherche du Graal, en fait.
Ouais, elles sont envoyées par leur tutrice.
Ouais, elles se disent, on connaît rien de ça, nous. Enfin, c'est pas.
Ouais, parce que tout le monde a compris le sujet dont on parle.
Oui.
On est autour de la table, on est tous d'accord.
Ouais.
Bon, je pense que les auditeurs ont compris de quoi on parle. Donc ouais, elles sont envoyées par leur nourrice,
ou
une tutrice,
une femme qui les forme à la broderie.
À la couture. J'ai jamais pensé à la broderie comme ça.
Bah.
C'est gênant. Ma mère fait de la broderie.
Durant le cours de broderie, il ne se passe absolument rien.
L'aiguille rentre dans le chat.
Voilà.
Ouais, le fil rentre dans le chat et il faut mieux humidifier le fil pour que ça rentre bien.
Voilà. Mais mis à part cette allusion, bon, effectivement, leur prof de couture découvre que ces trois jeunes filles, au prénom quand même un petit peu typique quand même, elles ne s'appellent pas Mégane, elles ne s'appellent pas
Kevina.
Et ces trois jeunes filles.
Elles sont envoyées au Helmuth Club.
Voilà. Yeah.
Et là, leur prof de couture découvre qu'elles sont tout à fait ignorantes des choses du sexe. Elle leur parle de cette contrée mythique, là où effectivement elles pourront découvrir plein de choses. Et c'est ce qu'elles font. Elles s'emparent d'un cheval un peu bizarre. Il a une drôle de queue.
Ouais, Graal.
On va y revenir dessus.
Et elles partent Galade, à l'aventure.
Galade, je me suis trompée de nom. Ouais, elles partent à l'aventure et puis sur la route, elles vont découvrir plein de choses.
C'est que ça, de péripéties.
Ouais, la route du Helmuth.
Avec des inventions dans le domaine animalier ou végétal qui sont assez sidérantes. Ouais, comment vous est venu ce scénario? Parce qu'en fait, vous l'aviez en tête, si j'ai bien compris.
Ouais.
Dès le début.
Bah, dès le début,
c'est
en fait.
C'est même parce que vous aviez le scénario en tête qu'il y a eu projet.
Oui. C'est parce que Felder m'avait dit, je reviens.
Je la sens.
Dit, mais tu veux faire une BDQ? Et puis j'avais dit oui, mais c'était comme ça, c'était à Angoulême, hein, très très très,
vous
très
aviez
rapidement.
Bu
Angoulême. et voilà, je suis revenue un an après avec quand même une idée en tête. Après, je suis partie de plein d'images d'enluminures en fait du Moyen Âge, avec toute la fantaisie qu'elles peuvent avoir et plein de petites choses aussi sexuelles qui sont présentes sur certaines enluminures et qui sont complètement folles en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de raconter cette histoire avec, en partant de ça vraiment de ces sources-là.
Parce que donc il y a quand même une espèce de cahier des charges, c'est-à-dire que vous devez raconter une histoire qui a vocation à être égrillarde, on va dire, mais aussi faire également dans l'humour. Et c'est quand même un exercice, c'est pas évident ça.
Bah alors faire dans l'humour, toutes les BDQ sont pas forcément drôles. Après, le format, enfin, la collection amène à ça et on a envie de ça aussi, quoi. C'est comment s'amuser. S'amuser à faire quelque chose de drôle avec en parlant de sexe, quoi. Ah. Et c'est pas facile de faire du sexe et de l'humour en même temps. Et puis
est-ce que vous connaissiez des auteurs? Parce que quand je vois ce genre de format qu'ils ont repris exprès, moi ça me rappelle les petits fumetti qu'on achetait à 14-15 ans quand on faisait machin. Il y avait.
Surtout ne le lancez pas là-dessus.
UF Comics, vous savez, il y avait un vilain triangle jaune et c'était des bouquins de cul de ce format-là.
Ouais.
Et il y avait
comment c'était déjà les éditions qu'on faisait en France
EP Comics, un truc comme ça. EP, c'était très drôle. Et en même temps, il y avait du cul. Bon, il y avait comment dire. dirais-je, des, parfois certains ouvrages qui viraient un peu sur le gore, mais pas beaucoup. C'est déjà quelque part du sexe et de la drôlerie dans ce domaine-là. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, dans cette collection qui compte, c'est un peu à l'image de la BD, hein, plus d'hommes que de femmes, comment est-ce que les femmes ont une vision un peu différente de, elles vont montrer la sexualité de manière un peu différente, même en faisant dans l'humour, etc. Est-ce qu'il y a une différence un peu,
la façon je pense que chaque auteur a une vision différente, puis même chacun on a une vision différente quand même de
oui, parce qu'on est être humain avant tout, oui, ouais, bien sûr.
Et après, BDQ, il y a beaucoup de filles quand même. Hein. C'est une des collections, je pense, où il y a...
Aude Picot, c'était la première. Alors, j'ai regardé un petit peu sur le catalogue. J'en ai compté que 3 ou 4. Alors, je sais pas
si... Il y en a bien plus, quand même.
J'ai pas vu beaucoup. Mais il faudrait revenir sur le catalogue. Mais de toute façon, c'est à l'image de la BD aussi. Il y a plus de garçons que de filles
au
niveau de
la
BD. Et déjà, je pense qu'effectivement, ils ont fait un effort énorme. Dès le premier, c'est une femme, ce qui est original. Et puis, ils ont continué. Ben, vous en êtes la vivante preuve, d'ailleurs. Et ça, c'est la première question que je voulais vous poser. Donc, et une autre question quand même qui est, vous avez rencontré pour la sortie de BDQ, Coco.
Oui, qu'on a sorti une aussi, ouais.
Voilà, et qui s'appelle, je ne sais plus comment...
Folliculaire, je me souviens qu'il y a
Folliculaire. Fantaisie folliculaire.
C'est ça.
Voilà. Et comment... Alors, c'est marrant, non, mais c'est tombé au moment où, justement, Coco était sous les feux d'une fatwa allumée par l'autre folle de la mère Chikirou, ou Chirigou, à chaque fois je me gourre, une amie de la Mélange, qui a hurlé après Coco, après un dessin que Coco avait... réalisé pour Libération. Un dessin, certes, pouf, paf dans ta gueule, t'en prends plein dans la gueule, mais en rien, qui ne méritait en rien la haine, justement, que ça a provoqué. Est-ce que vous avez conscience aussi que... Alors, il y a aussi l'exemple de Bastien Vivès. Est-ce que vous avez conscience aussi qu'à partir du moment où on s'engage dans ce style-là, on peut être un peu marqué à vie, stigmatisé, genre... tampon rouge sur le front.
Alors j'ai envie de rebondir et d'ajouter, vous n'avez pas peur aussi de prendre la foudre, parce que par exemple quand je vois à la fin de l'histoire, le type qui se branle dans ses stigmates, le barbu qui se branle dans ses stigmates, pour certains ça peut-être déclencher une réaction assez épidermique, quoi. Enfin, vous entrez direct dans un...
Une réaction ou une érection.
Ah, vous entrez direct dans un, je veux dire, un champ, une dimension qui est potentiellement dangereuse, quoi.
Bah, je sais pas quoi dire, en fait. Trop à ça.
Peut-être pas poser de questions.
Bah. Un peu, on sait, mais moi je trouve que cette blague est drôle, quoi, et c'est ça qui importait, quoi. Enfin,
oui. Est-ce que le sujet a été abordé, puisque vous avez fait une espèce de conférence de presse, c'est ça, ou c'est les ouvrages?
Non, c'était pas une conférence de presse, c'était une séance de dédicace.
Ok. Et comment parce qu'on parlait encore la semaine dernière de Bastien Vivès qui normalement a une expo à Bruxelles son expo lui a valu et j'ai vu des photos, nous on en a parlé avant que l'expo soit ouverte, le galériste a maintenu l'expo et il a fallu des flics, quoi, devant la vitrine, parce qu'il y avait tous les affreux plus proches de Dieu, à la droite de Dieu, qui hurlaient comme des vaches à la porte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette évolution?
Ça me fait un peu peur, parce que justement, en tant qu'auteur, de voir
s'autocontrôler.
Ça devient un peu dramatique aussi, ouais, mais... Ouais. Cette évolution, je la vois pas d'un bon œil, forcément. Enfin, je suis un peu... Après... En fait, je trouve que le sujet est super compliqué sur Bastien Vivès. Enfin, il amène. Enfin, c'est pas. C'est plein de choses.
Oui, il y a eu des choses avant.
Il y a. C'est sûr que.
Disons que pour élargir.
Les réseaux, les gens s'emballent vachement.
Pour élargir, vous qui rentrez justement dans le monde, dans la BD, donc avec un truc de cul, et puis avec par exemple, à la fin, un personnage qui se branle dans ses stigmates, qui peut avoir une connotation religieuse, quoi. Vous avez pas. Peur justement du fait que maintenant les œuvres, même de BD, déclenchent des surréactions à droite ou à gauche, comme ça.
J'y
avais pas pensé quand vous avez fait votre truc.
Il faut réfléchir.
Mais
forcément, c'est une question. Enfin, forcément, c'est quelque chose.
Si vous me dites non, c'est admirable, parce que ça veut dire que vraiment vous restez hyper spontané.
Non, bah, le dessin est venu très très spontanément,
okay.
Ça c'est sûr. La question, moi je l'ai tout de suite envoyée aussi, et puis tout de suite à CISO, et tout de suite, ah mais oui, bah, c'est super, enfin vas-y, mets-le dans la BD, parce qu'il n'est pas vraiment dans la BD, enfin c'est vraiment
c'est à, la fin,
à
ouais.
toute fin, c'est une chute.
C'est la cerise sur le gâteau.
Et c'est pour moi une très bonne chute. Si, je sais que j'ai des collègues qui me disent « Ah, mais tu vas avoir des problèmes », mais je
ça sais vous a pas retenu.
En tout cas, bah,
C'est un peu difficile de se dire aussi « Ah bah ouais, non, t'as raison, je vais peut-être avoir des problèmes, je vais arrêter, je vais pas faire ce dessin. »
Je vais pas faire le bouquin du tout.
Bah du coup, c'est ça aussi, je vais pas du tout. Et puis...
Parce qu'il y a un truc qui me saoule, c'est que parfois les coups viennent d'horizons où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire qu'une des plus... virulente contre le dessin de Coco, c'était quand même une députée de la France insoumise. Donc normalement, un parti laïque qui couine parce que le dessin serait anti-religieux ou se moquerait des musulmans, je trouve ça un peu fort de café. Et comme là, vous abordez la sexualité sous un certain angle, vous pouvez très bien aussi dire oui, mais à travers vos dessins, il y a quand même le côté toujours de l'homme, il faut le secours d'un God Michel, etc., etc. Ça peut venir de partout, moi j'ai l'impression.
Bah ouais, non mais j'entends.
Il y a très bien des féministes qui disent bah voilà, vous êtes vraiment dans le cliché, le plaisir de l'homme, etc.
Bah le plaisir de l'homme, c'est quand même c'est le plaisir des femmes avec. avec un God Michel principalement. L'homme est peu présent en fait dans cette.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ouais, BD,
il y a le concept de masculin, mais il n'y a pas l'homme.
Ouais. Donc je sais pas, je sais pas s'il y a des critiques, après je suis prête à les entendre, à les, enfin voilà, et à débattre sur des sujets si c'est fondé aussi, enfin je sais pas.
Justement, pour l'instant
j'ai rien eu, hein, peut-être qu'après cette émission je vais avoir plein de messages. Merci beaucoup.
Je sais pas en tout cas s'il y aura un jour un prix Trina Robbins, mais d'après votre attitude vous le mériteriez en tout cas sans failloter. Trina Robbins qui vient de mourir, c'était une figure des comics, militante féministe et historienne de la BD. On en avait parlé avec Erwan lorsqu'on avait été invité à comment conférencer sur la bande dessinée pornographique et érotique à Quai des Bulles. Et on avait parlé de son fanzine qui s'appelle Women's Comics. Et à l'époque, ce qui était rigolo, c'est que dans ces bandes dessinées, il y avait notamment des bandes dessinées ouvertement lesbiennes. Et ça lui valait des refus d'imprimeurs. C'est-à-dire que les imprimeurs qui acceptaient d'imprimer des BD de cul hétéros, eh bien, n'avait absolument aucun problème. Mais là, des femmes qui représentaient des femmes qui se passaient d'hommes, c'est pour ça que j'avais envie de rebondir là-dessus, eh bien, elles devaient aller chez un autre imprimeur, parce que celui-là, il dit « Non, moi, je ne fais pas », etc. C'est assez rigolo. Et donc, cette dame vient de nous quitter. Elle est née en 38. Vous voyez, elle n'était pas toute jeune. Elle a contribué à énormément de choses. Et j'avais bien envie de lui rendre hommage parce que je trouve que c'est de plus en plus marquant de voir que les filles sont beaucoup moins trouillues que les garçons. Il suffit de voir les iraniennes. Ça me permet de rebondir sur Athena Faghadani. Mais non, parce qu'il faut en parler, mon bon héros.
Alors, je vais rajouter juste pour Trina Robbins qu'elle a fait aussi du super-héros.
Ouais.
Et notamment chez DC Comics, elle était sur Crisis on Infinity Earth, qui a été quand même un pic dans les éditions DC, dans les aventures de Superman et de ses copains. Moi aussi, je peux dire des trucs.
Eh ben, c'est très bien. Et moi, j'avais envie.
C'est les histoires de l'oncle Roger, là.
Ouais, mais moi, j'avais envie de parler de, même si vous vous en fichez, d'Athéna Faghadani.
Non, je m'en fiche pas.
Eh bien, cette jeune femme qui a déjà été arrêtée une première fois et détenue plusieurs mois dans la sinistre prison de Karchak, eh bien, elle vient de se faire de nouveau arrêter pour blasphème et trouble à l'ordre public. Effectivement, lorsqu'on dessine, c'est forcément, on est dans le blasphème. Cette dessinatrice est membre de l'association Cartooning for Peace, où l'on retrouve Monsieur Plantu, notamment. Et ben voilà, il y a aussi j'avais envie d'en parler parce que le dessin, effectivement, je trouve que plus ça va maintenant, être dessinateur, ça devient un sport de combat. Vous avez pensé à vous assurer?
Mais j'ai pensé à assurer mes mains, oui.
C'est vrai.
L'outil de travail.
Non, mais... Non, j'ai pas... Non, je sais pas, je me dis qu'il faut quand même continuer, quoi, parce que sinon, on va avoir que des livres d'éducation.
Vous avez bien raison.
Ça va être terrible. Et voilà, moi, je pense qu'il faut... je suis complètement pour avoir des livres avec des endroits où on se questionne, où on est mis à côté, où on n'est pas d'accord, où on est choqué aussi, quoi. Enfin, c'est un peu, c'est un peu le but quand même de la littérature, de l'art. Enfin, c'est d'être ailleurs, enfin de se déplacer, quoi, de ce qu'on est et de pouvoir...
Alors, c'était comment la séance de dédicace? C'était votre toute première séance de dédicace?
Non, j'avais déjà fait des séances de dédicace avec des albums jeunesse.
Mais pas avec celui-ci, par contre.
Là, avec celui... Ouais, c'était la première avec Sacré Râle, oui.
Il y avait du monde?
Oui, il y avait du monde. Alors, il y avait moins de monde pour moi, c'est sûr, parce qu'il y avait Coco qui était là, et Salomé Laoche, qui est aussi une rosta d'Instagram. Donc du coup j'étais mais j'ai pas j'ai,
The
j'ai
outsider.
J'ai... Ouais, et c'est marrant parce que les gens s'excusent de pas vous connaître, alors ça c'est assez rigolo. Ah, je suis désolée, je vous connais pas, je sais pas ce que vous faites, c'est la première fois que je vois votre nom sur une BD, c'est normal. Enfin, non, c'était chouette.
Ça donne une occasion à discuter.
C'est cool. Et dans votre titre Sacré Râle, ça m'a fait penser, alors il est pas orthographié pareil, mais sur ces derniers temps en tant que dessinateur, Gottlieb avait ouvertement, surtout lorsqu'il avait sorti L'écho des savanes, fait des bandes dessinées beaucoup plus olé, on va dire. Et il y avait justement ce mot, la râlovely, qui revenait. C'est un rapport, non, coïncidence?
Après, c'était plus le sacré Graal qui était là, Râle. C'était un peu le jeu avec aussi Raël.
Alors,
on va y aller aussi.
On
va rentrer dans la BD parce qu'effectivement, il y a pas mal d'interrogations sur les personnages qu'on peut se faire sur un cheval, etc. Tout ça après un interlude musical, Yavol. Les Talking Heads,
yes.
Votre programmation, Roger. Et ensuite, on va commencer à décortiquer cette BD. Okay.
Meet
le New Feelings des Talking Heads. Programmation Roger. Alors, on suit les aventures donc de trois Girondes avec des noms assez explicites quand même. Clitandre,
oui.
Marie-Cyprine et Cunigonde. Voilà, partie à la recherche du Graal ou du Râle, Graal slash Râle, on va dire ça comme ça. Voilà, qui sont partis et elles vont croiser alors des personnages assez atypiques et des créatures assez atypiques. Parce qu'en fait, vous nous faites découvrir tout un univers.
Ouais.
Vous avez pioché toutes ces idées là, celle le cheval Galad, si je ne me trompe pas, avec ce nom presque arthurien.
Bah oui, bah après j'ai regardé. Ouais,
c'est un chevalier de la table
ronde,
oui.
Galad. Galad. Ouais. Bah voilà.
Allez, on est dans une quête médiévale, hein. On est dans une quête médiévale.
Oui, c'était l'idée de retrouver des mots, des choses qui nous amènent dans cet univers. Et puis le barde qui est là, qui raconte l'histoire aussi. Et puis, vraiment, je suis partie, ouais. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc de ces petites enluminures, c'est ça qui m'a vraiment amenée.
C'est vrai qu'au Moyen Âge, c'était beaucoup plus olé-olé qu'au 19e, par exemple. Il y avait les rapports sexuels n'étaient pas aussi codifiés, etc. Il y avait pas de, c'était vraiment le, on pouvait être un peu plus free que quand il y a eu ce retour de la pudibonderie. C'est d'abord venu en Angleterre, après c'est répandu chez nous, etc. La Bethléem au début du XXe siècle avec ses manuels d'anti-onanisme, etc.
Ouais.
Le Moyen Âge me donne, il suffit de voir les tableaux de Bosch, etc.
Oui, oui.
On se dit, putain, mais c'était là, ou Bruegel, c'était la fête, quoi, les gens, et hop, pouf, pouf, on voit des gaillards qui pincent les femmes, les dessins des femmes, ça paraît être grivois, en fait.
Ouais. Après, je sais pas comment les femmes étaient quand même...
Traitées.
Je pense que c'était, ouais.
Alors, le personnage raélien, le fameux Râle, il sort d'où cet ovni, là?
Bah ouais, c'est vrai que c'était...
Je m'y attendais vraiment pas à celle-là.
Bah oui, c'était un peu l'idée d'amener aussi un personnage comme... Enfin moi, ça m'amusait d'amener quelqu'un qui amenait comme ça à une explosion...
De surréalisme.
Ouais, et pour finir en fait et pour arrêter de montrer des fesses et des enfin
si on se lasse de dessiner de la fesse à un moment.
y en a quand même mais c'est vrai qu'il y a plus pénétration.
D'ailleurs tant qu'on parle de la fesse, ce que je me suis posé à un moment en lisant votre bouquin, c'était aussi les choix qu'on doit faire pour nommer les organes génitaux masculins et féminins. Parce qu'il y a plein de termes, en fait.
Ouais.
Et vous en avez choisi. Vous avez choisi le Mobit.
Ouais.
Par exemple, pas Brakmar ou... Vous êtes posé des questions sur ce vocabulaire,
non,
justement, non ?
Non, je trouve que bit, c'est quand même...
Ça dit tout.
Bah ouais, c'est quand même assez...
C'est explicite.
Ouais.
D'accord.
Alors au niveau du dessin, vous avez fait le choix d'un... On est très pâle, on est très très pâle.
Crayon de papier.
Crayon de papier.
Bah, le choix, c'est-à-dire que je dessine comme ça, en fait. Enfin, je dessine au crayon à papier avec... au critérium le plus fin possible.
Mais vous ne repassez pas avec...
pas d'ancrage.
Avec un ancrage.
Non, tout est au crayon papier. J'ai plein de crayons papier avec plein de critériums, en fait.
Alors, c'est marrant parce que...
des tailles différentes.
C'est pas un bouquin qui est très gros. On n'a pas beaucoup de place pour s'exprimer. Mais par contre, il y a un petit côté qui fait penser à votre goût pour la reliure, à cette espèce de tapisserie. Vous êtes fait chier derrière, comment dirais-je.
Moi, je me suis pas fait chier. C'est le moment où je prends énormément de plaisir à dessiner tous ces fonds.
Il y a énormément de fonds. Et alors, avec cette espèce de glande ronce, là, quand les personnages rentrent dans le méa du glande ronce, c'est pareil. Il y a plein de détails sur les feuilles. Il y a plein de petites feuilles.
Ouais, moi c'est ça que j'aime bien faire, c'est des détails.
Plein de fleurs, etc. Ça, c'est votre côté pour la gravure, c'est le lien que je fais, parce que je note, effectivement. Et parmi les travaux que vous êtes livrés pendant vos études, il y avait la gravure aussi, vous aimez bien ça.
Ouais, j'ai fait beaucoup de gravures, de pointes sèches quand j'étais étudiante. J'en fais maintenant, je fais plus de la lino avec barbe à papier, de la linogravure. Je fais moins de gravures maintenant par manque de temps, parce que c'est vrai que c'est des techniques qui sont quand même assez longues. Et oui, là, c'est vrai que c'est dans la finesse. Et puis là, en plus, je viens un peu graver le papier, justement.
Mais quasiment sur toutes les cases, on a des fonds, en fait.
Quasi. Bah, c'est vrai que ouais, le fond blanc, ouais, j'ai du mal, ouais, j'ai besoin ouais. de. J'ai
faut
besoin
pas que ça de... soit blanc, même dans la nature, faut qu'il y ait une haie derrière, la tapisserie, c'est rigolo.
Ouais. Et c'est vrai que les premières pages sont sur fond blanc, et j'étais, ah, qu'est-ce que je peux mettre? Non, mais c'est du tissu blanc, enfin, je sais pas, ouais, je sais pas. Mais,
c'est l'angoisse du blanc.
Peut-être, ouais.
Ouais, mais résultat, ça nous donne aussi, effectivement, on retrouve cette ambiance enluminure au final. Parce les scènes dans les jardins, etc., au Moyen-Âge, ils représentaient une espèce de dais derrière. Il y avait toujours ce côté-là.
Ouais, et puis, tous les détails aussi, effectivement, des enluminures, et puis, il y a un côté à plat aussi, j'aime bien. Enfin, après, moi, c'est aussi ma manière de travailler, mais dans les enluminures, on retrouve vachement ça aussi, cet aplat, ce papier collé un peu.
Alors, vous avez vous aussi des invités à la fin, parce que vous aviez vous-même été invité, et là, vous avez des invités, vous les avez choisis.
Oui.
Alors, présentez-nous vos invités.
Eh bien, il y a Nine Antico qui a fait un dessin,
comme par hasard.
Le dessin de Lolita. Ouais. Il y a Sophie Lécuyer. Qui a fait, c'est une encre, un dessin, un très beau dessin. Et puis il y a Hello qui a fait les pages de garde, une illustratrice rennaise.
C'est celui-ci, c'est une illustratrice aussi ?
Non, ça c'est un choix de ciseaux, je pense.
Ouais. C'est une vieille blague, ça.
Ouais.
C'est, vous savez comment les...
Rétro-fourrir.
C'est des trucs bien trash qu'il y avait dans les années 50, dans Paris Soir, etc. C'est dans ce délire-là. Il ne faut plus avoir de cheveux, Agathe, pour connaître ce genre de choses. Et il y a la pub, parce que moi, ce que j'aime bien, il y a toujours une pub. Et là, c'est vous qui avez... c'est toujours l'auteur ou l'autrice du bouquin qui doit faire la pub, en fait.
Non, pas toujours. Je sais pas. Là, on l'a faite parce qu'elle venait conclure aussi la BD, en fait.
Ah.
Donc, c'est un dessin de moi, mais avec une mise en page, du coup, de ciseaux.
Il y avait eu une excellente expo à Quai des Bulles autour du travail, autour de messieurs Ciseaux et Felder, si je ne dis pas de bêtises.
Que je n'ai pas vu. Et c'est Alain qui l'avait...
Qui l'avait monté, exact.
Je crois, oui.
Exact. Ouais. Oui, tout à fait. Exact. Et c'était en noir, il faisait nuit et c'était interdit au moins de 18 ans.
Bah oui, oui.
Et du coup, c'est bien parce que c'était la seule expo où il n'y avait pas de chiard qui touchait un peu à tout. On s'écoute un petit X.
On a le temps d'un dernier petit morceau. Ouais, les Duke Limited. C'est des Canadiens et j'adore cette pop. We'll be right back. Duck Limited, les Duck Limited, groupe canadien que je vais aller voir à l'Ubu en mai, tiens. L'heure est quasiment finie, j'ai pas vu le temps passer, Agathe, je sais
on
pas.
On accompagne, c'est comme ça.
C'est dingue, hein.
Un dernier truc quand même. Pour,
bah, on va rappeler rappeler le titre et tout.
C'est le 38e ou alors Coco est 39e et vous 38e, vous savez
Je crois qu'elle est 37 et moi je suis 38.
Vous êtes donc la 38e. Autrice, en tout cas auteur, de manière générale, de comment Agathe pour Sacré Râle aux éditions, comment collection BDQ aux éditions, dites-le-moi.
Le Monte en l'air.
Le Monte en l'air.
Le Monte en l'air.
Ça, ça lui parle plus, ça.
Et trop vieux,
ça lui parle plus,
le
Monte en l'air.
Et par contre, moi, j'ai la chance à un film, et vous allez nous rappeler pourquoi. Eh bien, sur ma couverture, j'ai un super cadeau. J'ai une partie de ma couverture en or. J'ai une dent en or.
Dans en or. C'est que dans la collection BDQ, il y a toujours une petite
un petit
clin d'œil, un petit truc rigolo sur la couverture. Comme des encres à gratter, des encres odorantes, du doré, des paillettes, voilà. Et là, on a choisi de mettre une petite dent en or.
Wow, c'est trop bien. Et il y en a même des exemplaires qui ont deux dents en or, comme le billet de Willy Wonka.
Ouais, j'ai posé la feuille d'or vous-même sur celui-là, moi-même.
Ah, dis donc.
Eh bien, on vous remercie, Agathe, d'avoir passé cette heure avec nous. On rappelle donc Sacré Râle aux éditions Le Monte en l'air pour la collection BDQ, dans la collection BDQ.
Bien, Roger, bien.
Et puis, on se donnera sûrement rendez-vous en 2025 parce que je l'ai noté en janvier 2025 sortira votre nouvel ouvrage.
Janvier, je ne sais pas. Normalement, premier trimestre, on va voir.
Premier trimestre 2025, votre nouvel ouvrage aux éditions. Cette fois-ci, Les requins marteaux.
Oui.
Super. Eh ben, à très bientôt alors. Bonne lecture, chers auditeurs.
Et tant pis.